pensez au rendez-vous chez le pédiatre pour le petit dernier, à la réunion parents-professeurs de l'aîné, à acheter un cadeau pour son anniversaire qui approche, à appeler la nounou aussi pour caler les vacances, sans parler des papiers, du ménage, de la voiture qui est encore chez le garagiste. Le quotidien des femmes avec des enfants se traduit souvent ainsi, et ce sont souvent elles qui portent cette charge mentale des enfants, parfois jusqu'au burn-out. Alors, loin d'écarter l'autre parent de ses responsabilités, ce sont encore elles, à 43%, les mamans qui ne se sentent pas accompagnées au quotidien dans la gestion de la vie familiale. On va voir tout de suite si ce sujet sur le burn-out dans ce nouveau conseil de famille a peut-être touché l'une de nos chroniqueuses. On voit ça tout de suite ensemble. Nous sommes accompagnés de Maude Fréchou, psychologue pour l'école des parents et des éducateurs. Bonjour Maude.
Bonjour.
Valérie Orvin, formatrice et coordinatrice de l'association Grandir Ensemble, qui parle d'éducation positive.
Bonjour.
Et Anne-Marie Kustams, coordinatrice du programme de réussite éducative, qui intervient dans le lot des voix.
Bonjour.
Alors mesdames, nous allons voir si vous avez été touchées par ce burn-out, de près ou de loin. En tous les cas, tout de suite, on écoute ce témoignage de cette jeune femme, qui n'est plus tout à fait jeune non plus, je ne devrais pas le dire comme ça, enfin Sabrina, maman de 3 enfants.
Maman de 3 enfants qui ont actuellement 20 ans, 17 et bientôt 15 ans.
Donc qui ont peu d'écart.
Ouais, c'est ça, tout à fait. Le dernier aîné, le plus grand, avait 5 ans. Donc il y a eu quand même... pas mal de boulot quand ils étaient petits, et donc c'était pas toujours évident, mais même en grandissant, c'est toujours pas évident. Donc voilà, 3 garçons. Voilà. Là, actuellement, j'ai 45 ans, et je travaille. Et je vis en couple, ouais, je suis mariée, et on travaille tous les deux.
Avec le papa des garçons.
Des garçons, ouais. Tout.
Je t'ai lu la définition du burn-out parental, qui parle d'épuisement émotionnel, de démotivation, de surcharge de travail, de responsabilité liée à la prise en charge des enfants... c'est un état d'épuisement et un état de stress prolongé. Mmh. Alors, ça te parle tout ça ?
Alors oui, tout à fait, ça me parle. Je comprends bien que ça puisse être possible et que ça puisse arriver même parfois souvent, à mon avis, avec certaines personnes, parce qu'en fait, déjà être mère c'est pas facile. Travailler en même temps c'est compliqué. Le boulot des enfants c'est quelque chose de très difficile. On nous apprend pas à être parents. Et il n'y a pas de recette pour être de bons parents. On essaie toujours de faire bien et on a toujours l'impression de faire mal. Voilà. Après, les enfants, ça prend beaucoup de temps. Moi, personnellement, j'ai eu parmi mes 3 enfants, il y en a 2 qui sont HPI, donc j'ai été régulièrement convoquée par les professeurs, les principaux des différents établissements scolaires pour le comportement. Donc ça a rajouté une charge émotionnelle difficile. Qui remet en question est-ce qu'on est une bonne mère, et donc dans ces cas-là on se sent vraiment pas une bonne mère. Donc ça c'est vraiment quelque chose qui a pu être difficile, surtout par le passé quand ils étaient plus petits. On peut en arriver à l'épuisement. Je pense qu'il doit y avoir d'autres notions qui s'ajoutent pour un burn-out parental. Je pense qu'il y a une fragilité parfois aussi peut-être de la personne elle-même, parce que tout le monde ne fait pas d'épuisement et de burn-out malgré la difficulté.
Est-ce que tu as pu t'appuyer sur le papa notamment, sur d'autres personnes pour les 3 garçons?
Oui, évidemment, le papa il a toujours été présent, il a fait beaucoup de choses. Après, on parle beaucoup de la charge mentale des mères, on parle beaucoup de tout ça. Et en fait, je pense qu'il y a une vraie vérité sous-jacente, parce que malgré le fait qu'il soit présent, malgré le fait qu'il nous assiste pour beaucoup de choses, j'ai l'impression qu'en fait on gère absolument tout. En tout cas à la maison, sans parler de nos responsabilités au niveau du boulot lui-même, on est tout le temps en train de penser en fait à plein de choses quoi. Il faut passer acheter le pain, il faut inscrire les enfants au centre aéré, il faut travailler, il faut faire plein de choses, le ménage, tout ça, et parfois ça peut être très difficile à vivre.
Et puis je crois savoir que vos 2 familles respectives ne sont pas du tout là.
Oui, nos 2 familles respectives habitent à 2 heures de route. Donc effectivement, depuis qu'ils sont tout petits, on a dû compter sur nous. Après, on a des boulots qui sont quand même corrects au point de vue qu'en fait, on est en libéral. Donc en fait, on a pu poser des journées de de repos pour les garder quand ils étaient malades ou autres. C'était pas évident, ouais. La famille n'était pas là. Et après, c'est pas toujours facile, même avec la famille, parce qu'il y a parfois, voilà, des reproches, des choses qui font que, c'est pas toujours facile.
Et comment on trouve des ressources, justement, quand la famille est loin, quand...
Alors, les ressources, on en a beaucoup aussi avec nos amis, parce qu'en fait, je crois qu'on est à peu près toutes dans le même cas dès qu'on a des enfants, donc qu'on en ait un, deux ou trois, ou plus. Il y a une charge mentale, surtout, qui est compliquée, bien qu'il y ait aussi une charge physique, de travail, etc. Mais... Et donc, ça fait du bien de pouvoir en parler avec les amis. Il y a beaucoup de choses à lire aussi qui sont intéressantes pour nous aider. Après, il y a possibilité aussi de... Moi, ça m'est arrivé d'aller voir une psychologue pour papoter un peu de mon couple, des enfants, parce que c'était pas facile. Donc, des ressources, il y en a, je pense. Encore faut-il aller les trouver et faire la démarche pour aller les trouver.
Voilà, Sabrina, donc maman de trois enfants, on a entendu qu'elle avait su se faire aider à certains moments. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, mesdames, de tout ça, de ce burn-out parental, toutes ces questions qu'elle pose autour de son rôle de mère, ce que la société et parfois même la famille nous renvoie quand on lui demande de l'aide. Dur.
Oui, dur, dur, dur.
Anne-Marie.
Oui, avec toutes ces injonctions aussi de la société, en fait. Fais comme ci, fais comme ça, faut pas faire comme ci. Enfin, voilà, il faut être parfait, partout, tout le temps. Voilà.
Moi, à mon époque.
Voilà, moi, à mon époque.
Moi, à ta place.
Oui,
moi aussi.
Oui, oui, et puis l'agenda, quoi. Enfin, le cerveau, il s'arrête jamais. Ah, il faut penser à ci, il faut penser à ça, il faut noter ici, le rendez-vous de l'un, le rendez-vous de l'autre, l'école, les devoirs.
Alors, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, je voudrais bien rajouter ça, c'est-à-dire qu'elle dit, c'est peut-être pas tous les parents qui passent par là, mais enfin, quand on a trois enfants dans l'espace de 5 ans, ça veut dire que ça fait beaucoup d'enfants en bas âge à la maison, ça veut dire que ça fait beaucoup, beaucoup, énormément de responsabilités et de sollicitations. Parce que les enfants, ils ont besoin de nous. Moi, j'ai entendu que ces deux parents travaillaient. Enfin, il y a vraiment ce truc-là d'être, comme tu disais, Anne-Marie, d'être sur tous les plans en même temps et de penser à tout. Ces grosses, grosses charges mentales et charges émotionnelles aussi, comme elle disait, avec la pression de la société, des autres, etc., le regard des autres. Mais je trouve super que Sabrina parle du fait d'avoir été demandée de l'aide, en fait. C'est important de se rapprocher effectivement d'un psy, d'un thérapeute, de quelqu'un qui écoute, enfin voilà. Et puis de partager avec d'autres parents, pour se rendre compte qu'on n'est pas tout seul à vivre ça, parce que ça fait tomber la culpabilité, toujours pareil, c'est vraiment un des trucs les pires, la pression, la culpabilité. Et puis qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Eh ben, c'est apprendre à mieux reconnaître ses limites, c'est-à-dire que si c'est trop, peut-être c'est pas grave si aujourd'hui la vaisselle elle est pas faite, peut-être c'est pas grave si le petit dernier part avec une tache sur son vêtement à l'école, peut-être, enfin voilà, d'essayer de lâcher prise un peu sur justement toute cette pression et tout ce qu'on montre à l'extérieur et de voir ce qui est vraiment important et sur ce sur quoi on peut lâcher, parce que c'est trop, c'est réellement trop, surtout comme elle dit, quand il n'y a pas la famille, quand on n'a pas trop de relais, c'est réellement trop.
Alors pourquoi on ne parlait pas du burn-out parental avant? Est-ce que ça veut dire que ça n'existait pas, Maud?
Moi, je voudrais revenir un peu justement sur les origines. Effectivement, moi j'ai pu regarder une vidéo que je vous conseille, qui a été faite par une amoureuse Cam, qui a fait une recherche sur le burn-out parental, et Isabelle Roskam, avec un K, qui a écrit pas mal de livres, et notamment, il y a une vidéo très intéressante sur les grands défis de la parentalité aujourd'hui, où elle met bien en avant le fait que le burn-out parental, finalement, on s'en est intéressé à partir des années 2000. Avant, on n'avait pas forcément de documentaires, d'études le concernant. Et elle met en avant plusieurs choses. Elle met en premier élément que, effectivement, tout le monde ne souffre pas de burn-out parental. C'est une réalité. Elle dit également qu'il n'y a pas de population plus ou moins vulnérable. C'est pas relié forcément à la monoparentalité ou au fait d'avoir trop d'enfants. C'est pas ça, en fait, qui va générer. Par contre, elle appuie le fait que la société dans laquelle on évolue, premièrement, elle véhicule que la parentalité, c'est que du positif. C'est-à-dire quand l'enfant naît, les cartes envoyées aux parents, c'est quel bonheur, quelle joie, toutes ces choses qu'on entend. Jamais on ne viendrait à l'esprit d'envoyer une carte où serait noté bon courage pour ces années difficiles. Alors que réellement, il y a quand même cette notion-là. Et la part sombre de la parentalité n'est pas forcément quelque chose qui est mis en évidence dans notre société. Alors que ça existe vraiment et que, contrairement à un burn-out professionnel, notamment, le burn-out parental, on ne peut pas le quitter. C'est-à-dire qu'on ne peut pas quitter son métier de parent. Quand on est en burn-out professionnel, on peut avoir des portes de sortie. On se met en arrêt maladie, on s'éloigne du lieu de stress qui est le travail. Là, le lieu de stress, c'est la famille. Donc, elle met en avant, Madame Roskam, elle suit donc des parents sur des ateliers qui durent 8 semaines. Et ce qu'elle décrit, ce sont des parents qui sont tellement détachés émotionnellement de leurs enfants qu'ils ont construit des scénarios abracadabrant pour pouvoir disparaître de la vie de l'enfant, tellement ils sont dans quelque chose de douloureux.
Alors, c'est vrai, pardon, je te coupe, quand des parents parlent de leur burn-out, ils parlent de pilotage automatique,
oui,
par exemple.
Ils sont totalement détachés émotionnellement. Donc, effectivement, ils font les tâches, ils font à manger, ils font les devoirs, ils habillent leurs enfants, ils les amènent à l'école, mais il n'y a aucune émotion qui est reliée.
Il n'y a plus le plaisir de partager quelque chose, finalement.
Exactement.
Il n'y a plus d'envie, plus de compassion.
Il n'y a plus rien. Et elle met en avant plusieurs éléments. Alors, elle décrit 5 raisons vraiment notables. Elle précise, elle dit en première intention que l'évolution des rôles des genres a fortement évolué. Et ça, c'est vraiment la génération des parents d'aujourd'hui où il y a la notion de coparentalité, où père et mère assurent le bien-être de l'enfant. Elle a questionné des grands-mères qui disaient, mais à notre époque, l'éducation, c'était notre affaire et le père, c'était le travail. Et on n'acceptait pas, c'était dit de cette façon, que le père vienne se mêler de l'éducation des enfants. C'était nous qui le faisions. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une adaptation importante des parents d'aujourd'hui avec pas du tout de repères de la génération d'avant. Voilà, c'est tout nouveau et donc ça le bouleverse énormément. Ensuite, elle parle de la montée aussi de tout ce qui est valeur individualiste. On est dans un monde, enfin, en tout cas, nous, dans nos sociétés, très, très individualistes, où les parents sont pris dans des injonctions totalement contradictoires. C'est-à-dire, si je sors avec mes copines ou mes copains, je culpabilise parce que je laisse mes enfants garder, donc je ne m'en occupe pas. Et si je suis avec mes enfants, ben, j'en ai un peu ras-le-bol et j'aimerais bien pouvoir sortir avec mes copines. Donc, il y a ce côté comme ça où on ne sait plus trop quoi. Et le burn-out parental, il est fortement relié au pays occidental, où justement les notions d'individualisme sont très importantes. Oui. Dans les pays, on va dire, plus collectifs, où la solidarité parentale est beaucoup plus présente, notamment dans les pays africains, il y a très très peu de burn-out parental, en fait. Mmh. C'est vraiment nos pays. Et la France a le pompon. Hein.
La France, la Suisse,
la Belgique, par rapport à l'Italie, par exemple, où il y a beaucoup moins de parents qui développent le burn-out. Et ensuite, c'est les États-Unis. Parce que on est le parent a c'est là où je pense que c'est terrible, hein, c'est qu'on a on a le sentiment qu'il faut faire tout seul.
C'est ça.
Les parents ne demandent pas d'aide.
C'est ça.
Et elle met en avant, j'aime bien aimer Isabelle Roskam, elle fait une petite anecdote intéressante. Elle dit voilà, vous êtes une maman débordée le matin, vous courez tous les matins pour amener vos enfants à l'école et votre voisin vous voit le matin galérer et un jour il vient vous voir, il vous dit écoutez, je vous vois galérer tous les matins, moi si vous voulez je m'en occupe de vos enfants, je les amène à l'école. À quoi vous pensez? Eh bien, la plupart du temps, les gens ils vont dire ah mais non, c'est bizarre quand même. Qu'est-ce qu'il cherche? Alors que peut-être c'est une bonne intention.
Absolument.
Donc on se méfie des autres.
Oui.
Et ça génère aussi beaucoup de sentiments de solitude que les parents vivent au quotidien. Et du coup, il y a une bascule à un moment donné où on tombe dans le burn-out. Quoi.
C'est aussi ce phénomène de société où on a depuis longtemps quitté, déménagé les endroits où on aurait pu grandir, entouré de sa famille, des cousins, des voisins qu'on connaît depuis très très longtemps sur plusieurs générations, et où finalement le village éduque aussi l'enfant.
Bien sûr.
Voilà, tu parlais de l'Afrique, on dit il faut tout un village pour éduquer un enfant.
Ils sont collectivistes, voilà. Nous on est individualistes. Et, y a ça, et la notion aussi qu'elle met en avant, qui je trouve très intéressante, c'est l'avènement de la contraception où est arrivé le concept de l'enfant choisi. Oui. T'as pas le droit de te plaindre.
Ah oui,
tu l'as voulu ton enfant.
Oui,
eh ouais. Donc à partir du moment où tu l'as voulu, t'as choisi la période à laquelle t'allais avoir l'enfant, à l'âge à laquelle tu voulais l'avoir, l'écart d'âge entre les enfants. Mmh. Du coup, ne te plains pas, quoi. Oui. Surtout, ne te plains pas. Donc, les parents ne se plaignent pas.
Et puis, depuis toujours, voilà, les parents ont élevé leurs enfants. Pourquoi toi, tu n'y arriverais pas ? Il y a une vraie pression.
Mais bien sûr.
Oui, il y a une vraie pression. Mmh. Et puis, si je demande de l'aide, c'est que je ne sais pas faire.
Bien sûr.
Oui.
Mmh.
Donc, du coup, ça me disqualifie en tant que parent. Mmh. Si moi, je suis si fatiguée, pas les autres, c'est que je fais quelque chose
c'est
de mauvais.
C'est
qu'il y a un problème. Donc forcément...
C'est vraiment le manque de dialogue entre les familles, entre les mamans, les papas, qui fait qu'on se croit seul au monde avec son entre guillemets, problème. Enfin, quelle que soit la problématique, d'ailleurs, on se croit seul au monde. Mmh. On pense que tout le monde y arrive, sauf soi, quoi.
Et c'est vrai que le concept de burn-out, donc, il a vraiment été... il commence à être vraiment... en tout cas documenté depuis les années 2000, parce que la société se rend compte des dégâts que ça provoque. Et ce qui est intéressant, c'est que les premières situations de consultation, où les parents viennent pour dire, voilà, je suis épuisé, démarrent années 90, et elle fait, le lien, Madame Roskam, sur le fait de la Convention internationale des droits de l'enfant, qui effectivement met en avant énormément de devoirs parentaux. C'est écrasant. Si vous lisez moi je l'ai lu, franchement, ça fait paniquer quand même. On se dit, mais on va pas y arriver. Donc, il y a cette partie-là et le côté aussi où, voilà, le statut de l'enfant a énormément changé. L'enfant n'a plus le même statut. Pensons quand même qu'il y a à peine 100 ans, et c'est très peu, un enfant de moins de 12 ans pouvait travailler 12 heures par jour. Maintenant, les parents se plaignent des devoirs que font leurs enfants. Donc, en très peu d'années, finalement, en 100 ans, le statut de l'enfant a été, il y a une centration sur l'enfant. Du coup, les parents, effectivement, ils ont un poids qui met en avant que l'enfant doit être... On doit être pour l'épanouissement de l'enfant.
Voilà. Oui,
l'enfant,
enfin, en même temps, tant mieux que les enfants de moins de 12 ans
travaillent
pas 12 heures par jour.
Ah, mais bien sûr. Ça, c'est un vrai plus. Okay. Mais du coup, ça amène quand même des pressions. Parce qu'à l'époque, on pouvait amener les enfants en place publique pour leur faire voir des exécutions. On se préoccupait pas du trauma que ça pouvait engendrer. Il y avait l'éducation punitive. Enfin, il y avait toutes ces choses-là. Donc ça, c'est très très bien que effectivement c'est bougé, mais à contrario ça a développé d'autres difficultés pour les parents.
Oui, on est tous en recherche de toute façon, c'est de la recherche.
On écoute tout de suite Ben Mazuet, justement, qui parle de la femme idéale.
Matin, crèche, taf, gamin, sortie, presse, dîner, bain, histoire, dans, dodo, câlin. T'as plus le temps, pourtant t'as rien commencé. C'est pas nouveau que tu cours, depuis que t'as plusieurs amours, depuis que t'as mis au jour, et que le temps vient à te manquer. Le cœur est extensible, tu le sais maintenant. T'y as mis tes enfants, tu rêvais de cette vie, voilà que tu doutes. Tout le monde te dit vas-y, alors tu larges les bouts. Maître Sorbet, femme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse orbe, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. D'abord t'as démissionné, les signaux t'ont bien décidé. Mais si, non, ça s'est pas passé comme tu penses. T'es juste paumé. La confiance, elle s'est barrée avec ton actu. Elle est partie depuis le début. Tu dois faire tes choix seul, sans modèle. Ton mec, ta mère, ta sœur, y'a pas d'aide, y'a pas d'aide, tu sais. Maîtresse hors pair, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maîtresse hors pair, âme, sœur, bosseuse en or, mais femme, sœur, tu verras. Plus le temps passera, plus tu sauras. Yeah. Va trouver qui tu es, vas-y, va te réinventer. Quand ta vie s'est déconnectée, quand tu sais que tu n'es plus sexy, quand tu sais que tu n'es plus maître sorbet, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sorbet, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras. Maître sorbet, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Maître sorbet, âme sœur, bosseuse en or, mais femme sœur, tu verras, plus le temps passera, plus tu sauras.
De retour dans ce conseil de famille avec nos trois chroniqueuses. Alors, moi, j'avais une question. Est-ce que dans vos professions, dans vos rencontres professionnelles, est-ce que vous rencontrez des parents qui sont en burn-out et qui ne le savent pas, par exemple ? Parce que la question derrière tout ça, c'est est-ce qu'on peut poser un diagnostic et qui peut le faire ?
Oui, moi, je veux bien répondre. Oui, effectivement, dans les ateliers de parents, en fait, c'est quelque chose qui sort relativement souvent. Et effectivement, il n'y a pas forcément la conscience que c'est ça qui est en train de se passer. Comme si c'était normal d'être dans cet état d'épuisement et de ras-le-bol avec les enfants, etc. Et de pas avoir... Enfin, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, de pouvoir le nommer, le dire et de voir que, ben non, tu pourrais vivre ta parentalité autrement, tu pourrais être, voilà, avec tes... Enfin, tu pourrais, pas de conseils à donner, mais de dire que non, on peut vivre ça autrement et que non, ça n'est pas une fatalité, en fait, qu'on peut faire quelque chose autour de ça. Il y a moyen de s'organiser autrement, il y a moyen d'aller en parler, enfin, etc.
Donc certains pensent que c'est normal, d'autres le cachent, j'imagine. Cachent leur absence de plaisir à être avec leurs enfants.
Oui, ça je le décèle à écouter, en fait, à force de... On est en confiance dans les groupes de parents, à force que les parents décrivent, en fait, les situations qu'ils sont en train de vivre. En fait, ils prennent conscience, on l'entend, et ils et elles prennent conscience que leur posture, elle n'est pas adaptée aux besoins de leurs enfants, ni aux leurs d'ailleurs.
Mmh. C'est là où tu parlais de l'importance d'échanger avec d'autres parents.
Exactement.
Voilà.
Et de venir entendre comment ça se passe chez les autres, de pouvoir dire, parce que ça fait tellement du bien, avec aucun jugement, voilà, ça déculpabilise, et puis ça permet de prendre conscience, parce que tant qu'on ne le nomme pas, la prise de conscience, elle est compliquée. On est là dans son run quotidien et on ne s'en rend pas compte, en fait. On est emporté par.
Absolument.
Souvent, c'est un passage à l'acte hein, qui va amener l'enfant, le parent, à demander une consultation. À un moment donné, il n'en peut tellement plus qu'effectivement, voilà, il y a un moment donné où il va y avoir une fessée, un coup, parce qu'il n'y a plus la barrière inhibitrice. Le parent étant distancié émotionnellement de son enfant, n'a plus de capacité d'empathie. Donc effectivement, il se lâche complètement. Et c'est là où ils se rendent compte qu'ils sont allés trop loin et que là, ils ont besoin de consulter. Il y a aussi, je trouve, un des éléments qui m'alerte, c'est les tensions au niveau du couple. Parce que ça génère énormément de tensions.
Oui, bien sûr.
Voilà, les parents sont épuisés, donc effectivement, le couple en prend un coup. Et ça aussi, je crois que c'est un élément qui moi, m'alerte. Et puis, les plaintes somatiques. Parce qu'il y a une étude qui est sortie en 2020, très intéressante, sur le fait de pouvoir prélever. Les parents qui sont victimes de burn-out, on leur a prélevé des cheveux. Pour pouvoir justement calculer
le taux de
cortisol au niveau des cheveux.
Et il s'avère...
Le taux de cortisol.
Le cortisol,
c'est l'hormone de stress.
Voilà.
Qui est indispensable pour tout parent. Ce qu'elle met en avant, cette étude met en avant, c'est que tout parent a un taux de cortisol plus élevé que ceux qui n'ont pas d'enfants. Parce qu'on a besoin de cortisol pour pouvoir protéger les enfants face au danger. Oui. Donc, de manière naturelle, on a plus de cortisol. Par contre, les parents qui sont dans un burn-out parental ont un taux de cortisol similaire aux femmes victimes de violences conjugales, tellement qu'il est élevé. Donc, du coup, ce taux extrêmement fort de cortisol va générer toutes les somatisations inflammatoires, c'est-à-dire quelqu'un qui a une fragilité au niveau intestinal ou qui a des fois un peu mal au dos. Là, ça va être pas un peu mal au dos, c'est tout le temps mal au dos, c'est avoir tout le temps mal au ventre, c'est avoir tout le temps mal à la tête. Donc ça aussi, je crois, c'est des conséquences.
Être tout le temps fatigué.
Tout le temps fatigué, voilà. Arrive plus à dormir, en fait, il y a vraiment... Alors là aussi où on doit être vigilant, c'est de bien distinguer le burn-out de la dépression, c'est que le burn-out parental, lorsque l'on s'éloigne de la source de stress, qui sont les enfants, en fait, tout va bien. Et c'est pour ça que c'est difficile à déceler, parce que quand une personne vient vous dire « j'ai un burn-out parental » et qu'on la voit au travail, tout va bien au travail. Elle va très bien au travail. Et oui, parce qu'elle est loin de sa source de stress. C'est quand elle rentre chez elle qu'elle est mal. Alors que la dépression, tu es mal partout. Donc c'est là vraiment où il faut à distinguer. Et un des premiers points, enfin en tout cas une première piste pour en sortir, oui, c'est d'en parler. À des gens qui ne vous jugent pas.
Absolument.
Alors avant de parler des pistes pour en sortir, un petit mot. Donc tu disais le burn-out parental est différent du burn-out professionnel. Et en quoi il est différent, ce burn-out parental, d'une dépression postpartum, par exemple?
C'est vrai que c'est la frontière est pas simple à trouver.
Elle est quand même en conséquence, hein, cette dépression postpartum, hein, qui est beaucoup
aussi. C'est la
aussi.
Naissance qui vient. C'est la naissance qui vient. La source, c'est la naissance, quand même.
La source, c'est la naissance. Elle est très en réaction directe avec l'événement et aussi très hormonale.
Voilà, c'est ça que j'allais dire. C'est
donc très hormonal, qui voilà, des hormones qui bougent, voilà.
Donc on n'est pas forcément débordé à la naissance d'un enfant, bien que
on l'est aussi, on l'est aussi. Ça, mais on pourrait les cumuler, hein. J'ai envie de dire ou enchaîner l'un sur l'autre.
Oui, j'allais dire peut-être que les femmes qui ont fait un burn-out, une dépression postpartum sont plus enclines à faire un burn-out parental.
C'est possible.
Je sais pas, il y a peut-être pas d'études là-dessus encore.
Non, je crois pas qu'il y a des études là-dessus, mais ça peut effectivement. Mais les causes sont quand même complètement différentes. Il y a quand même vraiment un très fort ancrage hormonal dans la dépression postpartum qui n'est pas retrouvé dans le burn-out parental.
En tout cas, le processus de burn-out parental, c'est quand les stresseurs sont supérieurs aux ressources.
C'est d'équilibre,
il y a un équilibre à trouver. Et des stresseurs, il y en a plein. C'est les activités extrascolaires, c'est avoir beaucoup d'enfants, c'est travailler, c'est
être seul,
avoir un petit logement, être seul.
Il y en a plein. C'est sans cesse être convoqué à l'école, au centre aéré,
et c'est ça qu'il faut arriver à.
Ce que disait la maman dans son témoignage.
Exactement. Et ce que disait, ce que certains auteurs disent, c'est que par exemple, pour beaucoup de parents, alors ça touche par exemple pas mal les parents qui sont perfectionnistes.
Évidemment.
Parce que ils veulent toujours aller. C'est souvent des parents qui sont surinformés, qui sont très conscients des besoins de l'enfant, qui veulent atteindre la perfection et qui du coup se mettent énormément de pression sur les activités. Alors du coup, il faut que l'enfant il fasse du sport, mais qu'il faut qu'il fasse une activité aussi théâtre. Ah oui, il faut qu'il fasse aussi de la musique.
Mais il faut qu'il ait les bonnes notes à l'école.
Voilà, ça met l'enfant en stress
quand
aussi.
Quand t'as qu'un enfant, ça peut passer, mais quand t'en as deux ou trois, là, ça passe plus. Et en plus de ça, ce que tu dis, Valérie, très juste, c'est que ça développe des enfants anxieux.
Absolument.
Et on a beaucoup actuellement d'enfants anxieux.
Oui, voire agités.
Voire agités.
On rejoint ce qu'on dit souvent, hein, mais l'idée pour le parent, pour être OK avec son enfant, c'est d'abord de prendre soin de soi.
Bien sûr.
Je veux dire, on ne peut pas prendre soin de l'autre si on ne prend pas soin de soi. Donc de reconnaître ses limites et de pouvoir nourrir ses besoins et de faire des pauses et de laisser tomber, ce que je disais tout à l'heure, la vaisselle, etc. Enfin, les choses,
lâcher prise.
Et prioriser, effectivement. Et déléguer aussi.
Oui, déléguer.
Déléguer au maximum, quoi.
Bien Alors, sûr. Déléguer à qui? Quand on est une mère seule, que la famille n'est pas autour.
Justement, on va
trouver des colos, essayer
des
colos, le centre de loisirs,
les voisines,
être inventif, créatif, aller au parc,
c'est ça.
Rencontrer d'autres parents.
Il y a une expérience qui a bien marché en Belgique, qui en fait ce sont des parents dont les enfants sont dans la même classe, ils ont créé un groupe WhatsApp et ils tournent, c'est-à-dire que une fois dans l'année, chaque parent s'occupe des enfants d'autres parents. Et en contrepartie, tu peux avoir un week-end avec ta femme. Tu as un week-end où tu peux partir et en échange, tu vas t'occuper pendant un week-end d'autres enfants d'autres parents.
Exactement.
Et ça tourne comme
et
ça.
Ben voilà.
Et du coup, ça, c'est
y a
quelque
un
chose.
Jour où c'est la colo à la maison quand même. Hein.
Oui, mais justement, le parent qui en parlait, le papa qui en parlait, il disait que.
Tu prends pas tous les enfants d'un coup.
Non, t'en prends un ou deux.
Ah d'accord, ah ben oui. Ça tourne. Ah, moi je pensais que tu prenais les
non,
deux.
Non, t'en classe. Prends un ou deux. Tu prends les enfants d'une famille.
Mais ça peut être une idée aussi.
On va mettre des tentes dans le jardin.
Tu prends les enfants d'une seule famille, de la classe, un enfant de la classe en fait. Ouais. Et du coup, ça tourne et ça permet à chaque parent d'avoir au moins un week-end ou deux parents. Donc c'est du relais, c'est la solidarité entre parents. Exactement. Ça marche très très bien.
Exactement.
Par exemple.
Alors, on va finir par ce petit conseil de solidarité entre parents. Moi, ce que je dis aux parents, c'est vous allez à l'école, vous faites connaissance avec d'autres parents. C'est pas uniquement par intérêt, hein, c'est aussi pour échanger autour de vos enfants par rapport au maître, à la maîtresse. Et puis, c'est aussi l'occasion de faire du lien et de s'aider. Vous avez besoin d'un coup de main, peut-être que ce parent pourra garder votre enfant un soir et vice-versa. Enfin, voilà, c'est important qu'il y ait cette solidarité.
On se rend service. On s'entraide, c'est hyper important.
Et on partage.
Oui, arrêter d'être tout seul, chacun dans son coin avec ses enfants. C'est la clé.
Valérie, tant que tu as ce micro, un petit mot sur ton actualité.
Eh bien, toujours en route, les ateliers gratuits à l'ODEF pour les parents. En ce moment, on est en train de clôturer Frères et Sœurs sans rivalité. Dès septembre-octobre, va redémarrer Parler pour que les enfants écoutent, écouter pour que les enfants parlent. Et une fois par mois, l'atelier Parents partage, où c'est sur le thème de votre choix, pour venir dire justement... j'en peux plus, je voudrais si ça, voilà. Il y a un atelier Parents d'ado aussi qui a été mis en place depuis peu. À l'ODEF, c'est gratuit pour les parents. Renseignez-vous, ça se passe au LUTEVA et à l'association Grandir Ensemble.
Merci Valérie. Maude.
Oui, alors je voudrais informer. Il y a deux sites qui existent, qui sont très intéressants, qui sont parentssurlefil.com ou burnoutparental.com, qui sont dédiés aux parents, du coup, qui sont exposés au burnout parental et qui est très, très, des sites qui sont très, très bien faits.
Voilà, super. Puis même en tapant burnout, moi, burnout parental, j'ai même trouvé un petit test pour savoir si j'étais en burnout. Je ne l'ai pas fini, je vous donnerai le résultat.
Est-ce que ça sera en dessous l'émission de radio sur le site?
Oui, il faut espérer, bien sûr. Anne-Marie.
Mais moi, je vais vous rappeler pour rencontrer d'autres parents le 31 mai, la fête du jeu sur l'esplanade pour faire du lien. Venez, on sera tous là. Ça permet de rencontrer différents professionnels, exact. Mais aussi d'autres parents et de partager des bons moments avec ses enfants. Donc venez nombreux pour la fête du jeu le mercredi 31 mai.
Voilà, à l'ODEV de 10h à 18h. Merci à Anne qui était aux commandes de cette émission. Conseil de famille, au revoir à tous et portez-vous bien.
Au revoir.